942. Page 942, Matthieu chapitre 6, et je vais lire les versets 19 à 34. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres ? Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? » ou bien « Qu'allons-nous boire ? » ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Merci Marion. C'est une joie de pouvoir assister au baptême de Sophie et d'entendre son témoignage, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si elle ne nous a pas encore rejoint, je crois, hein, mais tout à l'heure. Dans la semaine écoulée, quel était le sujet numéro un dans les conversations ? Trois options. Le temps, pas à parler du temps. Les derniers matchs de la D1 ou l'affaire DSK. Alors, je vous le donne dans le mille, c'est l'option C qui est retenue. Le Monde avait un dessin de Martin Wittberg vendredi où le titre c'était « Les Français ne parlent que de ça ». C'est assez drôle de voir d'ailleurs les petites remarques qui étaient faites, mais c'est vrai que ça avait de quoi surprendre. Le sujet a été abordé à tout moment. Moi, mardi, on était à la préfecture avec Anna et je devais faire des photocopies. Et l'homme devant moi, que je ne connaissais pas, à un moment donné s'est retourné, il m'a demandé mon avis sur l'affaire DSK. Comme ça, on ne s'y attend pas à la préfecture, on est là pour attendre. On ne s'y attend pas. Mais c'est vrai qu'on en a parlé dans toutes les directions, différentes théories qui ont été avancées, de scandales, complots et des réactions dans tous les sens. Et sur un sujet aussi brûlant, on réalise qu'en fait, une position neutre n'existe pas réellement. Même un silence, il peut être interprété. On doit se positionner sur un sujet aussi brûlant. Et en fait, dans le passage qu'on vient d'entendre, on réalise que Jésus nous dit là aussi qu'il y a un sujet brûlant, peut-être pas aussi brûlant pour nous que l'affaire DSK, quoique, en apparence moins brûlant, mais le sujet de l'argent, des biens, on n'arrive pas à avoir une position neutre. On n'a pas de position neutre. Alors, il ne s'agit pas d'une position neutre dans le sens « l'argent, c'est bien » ou « l'argent, c'est mal ». Ce ne sera pas ça, le positionnement, mais c'est plutôt ma manière de voir l'argent, ma manière de gérer cette préoccupation-là. Et comme c'est ailleurs dans le Sermon sur la montagne, cette série qu'on reprend, on voit que Jésus veut interpeller, faire réfléchir, choquer par des contrastes. Et on trouve plusieurs contrastes dans ces versets. Je vous suggère d'en voir quatre. Les contrastes entre deux trésors, les versets 19 à 21. Contraste entre deux conditions physiologiques, dans les versets 22 à 23. Contraste entre deux maîtres, 24. Et pour terminer, deux types de préoccupations, 25 à 34. Donc il utilise les contrastes pour nous faire réfléchir. Et pour les résumer, je vous suggère le plan suivant. Le prix de nos préoccupations, 16 à 24, est la priorité dans nos préoccupations, 25 à 34. Les trois premières images que Jésus utilise, elles ont, semble-t-il, en commun un prix qu'on paye quand on se préoccupe trop de l'argent. Il y a des implications. Et en tenant compte de cela, ça nous invitera à voir quelle priorité avoir dans nos préoccupations. Une chose qui ressort fortement dans ce que Jésus nous dit ici, c'est que le choix, il est capital. Il est capital parce qu'on va nécessairement choisir entre ce qui dure et ce qui détruit. On va nécessairement choisir entre ce qui dure ou ce qui détruit. On commence avec le prix de nos préoccupations. Et on a là les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt les trésors dans le ciel, là où ni les vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Contraste entre deux trésors, un trésor amassé sur la terre ou un trésor amassé dans le ciel. Et dans la Bible, dans les paroles de Jésus aussi, le ciel, c'est l'expression qui décrit la présence de Dieu, symbole de cette présence de Dieu. Et donc, il y a un contraste entre des trésors qu'on voudra accumuler ici, ou de l'argent, des biens, ou un trésor qui s'attache à la présence de Dieu et tout ce qui le caractérise, lui. Alors, en entendant cela, il y en a peut-être qui se disent, bon, c'est un petit peu simpliste comme manière de voir. Dieu ou l'argent, ce n'est pas un peu réductionniste comme choix. Alors, comme on le verra, il est nécessaire de faire des remarques et on verra que les paroles de Jésus sont dans un contexte et il faudra bien comprendre le contexte pour comprendre ce qu'il veut dire. Et il faut dire aussi, toujours d'après le contexte, qu'on voit que l'argent, ce n'est pas le seul concurrent à la foi en Dieu. On peut aussi être saisi par d'autres choses. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là il y a deux dimanches, on parlait de l'hypocrisie des hommes religieux, de ceux qui, en fait, veulent vivre leur piété de manière à être vus de tous. Ça aussi, c'est une concurrence. Le désir d'être vu des gens plutôt que de vivre sa piété devant Dieu. Ça, c'est un obstacle ou une opposition à Dieu. Mais pour en revenir à ce constat, je vous suggère que Jésus n'est pas le seul à faire ce constat de l'un ou l'autre. Écoutez par exemple Friedrich Nietzsche, qui parlait de la société occidentale, et il voyait des gens qui croyaient de moins en moins en Dieu, et il décrit la chose suivante. « Ce que l'on faisait autrefois pour l'amour de Dieu, on le fait aujourd'hui pour l'amour de l'argent, c'est-à-dire pour ce qui procure le mieux le sentiment de puissance et la bonne conscience. » Alors Nietzsche était bel et bien athée, mais ça n'empêche pas de faire ce constat que quelque chose allait prendre la place de Dieu dans la société, et l'argent en l'occurrence. On parle ici du prix de nos préoccupations, et vous vous demandez peut-être où se trouvent les traces d'un prix dans les propos de Jésus. Bien, d'une part, on le voit dans les signes de détérioration, de ces biens qu'on veut amasser. Jésus parle ici de vers, de rouille, de voleurs. On peut traduire autrement rouille par ceux qui mangent, en gros. Et l'idée, c'est qu'il y a une destruction de ce qu'on veut justement amasser. Et quelque chose, du coup, qu'on perd. L'accent que Jésus veut mettre, il n'est pas tant sur le moyen de le perdre, que ce soit les vers ou la rouille, les voleurs. Ce n'est pas le moyen qui est le plus important, Mais c'est en fait de mettre en évidence que les biens qu'on veut amasser, qu'on a tendance à vouloir amasser, ils ne sont pas durables. Alors aujourd'hui, dans notre époque, on parlerait peut-être avec d'autres choses de cet effet qui n'est pas durable dans les biens qu'on amasse. Est-ce que je suis bel et bien certain que mon argent est à l'abri de l'inflation? Est-ce que je suis bel et bien certain que le pays où je vis ne connaîtra pas de crise profonde, comme c'est le cas par exemple en Irlande, en Islande ou au Japon? Est-ce qu'il suffit d'investir dans la pierre pour savoir que mon argent sera en sécurité? J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un gestionnaire de patrimoine et lui-même reconnaissait que même quand on investit dans l'immobilier, il n'y a pas de garantie. On peut avoir des coups durs là aussi. Alors le but de Jésus, ce n'est pas simplement de nous faire peur, nous inquiéter en pensant à ces différents éléments, mais c'est plutôt de nous faire réfléchir à un constat. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur, c'est le siège de la personne. Et ce siège de notre personne va suivre nos préoccupations. Il y aura un lien entre ce qui occupe le plus notre esprit et notre cœur. Pour le meilleur et pour le pire. Si ma préoccupation essentielle, c'est de vivre avec un certain confort, comment est-ce que je vais vivre le moment où ce confort m'est retiré, ou pour une raison ou une autre, je vis une situation financière difficile, comment est-ce que mon cœur va le vivre? Si l'essentiel de ma vie consiste à amasser des biens, comment est-ce que je vais vivre ces moments où je suis face à la mort? Comment est-ce que je vais vivre ces moments-là, l'angoisse de la mort? Si je focalise toute mon énergie sur des biens matériels, sur une sécurité financière, sur une retraite bien méritée, est-ce que je peux honnêtement croire que ça n'aura aucun impact sur mon attitude, mon cœur, ma relation avec les autres, ma relation à Dieu? Est-ce que je crois sincèrement que si j'en fais l'essentiel de ma préoccupation, ça n'aura aucun impact? Jésus veut donc nous rendre attentifs par ce contraste au fait que de se consacrer au bien, à l'argent, ça aura un impact, ça sera destructeur. Et tout en entendant cela, il y en a peut-être qui se disent, mais moi, ça ne me concerne pas vraiment. Il y en a peut-être autour de moi, peut-être dans cette salle, il y en a, mais moi, pas spécialement, je ne suis pas concerné par ce constat d'un appât pour le gain. Et ça nous amène naturellement au deuxième contraste, les versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps, si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres? Alors ça semble un peu voilé comme image, mais on essaiera de mieux comprendre. L'autre jour, on a reçu un lien de quelqu'un ici à la RDS dont je tairai le nom. Mais c'était un clip des Inconnus, Auteuil Neuilly Passy. Et tous les connaisseurs, vous vous souvenez des Inconnus? Il y en a peu ce soir, semble-t-il. Auteuil Neuilly Passy. Alors je vous lis quelques morceaux choisis de la chanson. C'est Auteuil Neuilly Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto. Je suis fils unique dans un hôtel particulier, c'est la croix, la bannière pour me sustenter. As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte? Et ça continue. Qu'est-ce qui fait sourire, en fait, dans ces paroles où, en fait, on a affaire à des gens qui sont extrêmement riches? Ce qui nous fait sourire, c'est qu'il n'y a aucune raison de se révolter. Je veux dire, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais si ce n'est pas dit explicitement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ces paroles au sujet de notre perception des richesses. Ce sont d'autres personnes qui sont riches, qui en ont trop, qui ont des problèmes d'argent. Des gens qui disent honnêtement, en toute sincérité, j'ai trop d'argent. Je ne sais plus quoi en faire. J'ai plus qu'il n'en faut. Est-ce que vous en avez déjà entendu? Vous avez déjà entendu des gens vous dire en toute sincérité, j'ai plus qu'il n'en faut. Je suis vraiment... j'ai trop d'argent. Ce n'est pas courant, hein? C'est pas courant. Et pourquoi est-ce que c'est pas courant? Pourquoi est-ce que c'est pas courant? N'est-ce pas parce qu'on vit toujours dans une frange de la population où on voit des personnes qui sont plus riches que nous? On voit sur son lieu de travail ou dans son quartier des gens qui en ont plus. Et à la limite, pour telle ou telle personne que je vois, je me dis, elle a un problème avec l'argent, elle est très proche de ses sous. Mais moi, j'essaie simplement de vivre de manière raisonnable. J'essaie simplement d'avoir un rythme de vie sain. Mais tout en disant ça, est-ce qu'on réalise qu'on fait partie, nous, de la tranche des privilégiés? Est-ce qu'on réalise qu'on est dans la tranche des très privilégiés? En France, on dit que ceux qui gagnent moins de 650 euros par mois, ces personnes-là sont officiellement pauvres. Et c'est vrai que vivre avec 650 euros par mois, ce serait très difficile. Et il y en a peut-être certains qui sont parmi nous et qui vivent avec très peu. Mais je ne pense pas que ça soit la majorité d'entre nous. Mais encore plus, si on regarde à l'échelle mondiale, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 1 milliard de personnes qui vivent avec moins d'1 dollar par jour, soit 1/6 de la population mondiale. Qui d'entre nous figure dans cette catégorie-là? Qui d'entre nous est dans cette catégorie des moins d'1 dollar par jour? Est-ce que notre perception, elle est véritablement objective quand il s'agit de l'argent et du problème qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas avec l'argent? Ici, c'est intéressant de voir que Jésus parle de l'œil. Et si on était dans un autre contexte, on pourrait penser qu'il parle de manière générale. Si mon œil est affecté, tout mon corps est affecté. Mais ici, c'est bel et bien avant et après, dans le contexte de l'argent, des biens. Par notre faculté à voir, on arrive à éviter des obstacles. Vous avez évité les bancs, de vous accrocher sur un banc ou une porte ou les escaliers de chuter, parce que vous pouvez voir. Et même si c'est vrai que des aveugles arrivent à vivre sans cette capacité à voir, le principe général, c'est qu'en voyant, on peut éviter des dégâts pour notre corps, des risques qui sont pris pour le reste du corps. Alors, on a l'habitude de dire que l'amour rend aveugle. Ici, je vous suggère que Jésus est en train de nous dire que l'amour de l'argent rend aveugle. Et nous rend insensibles à certaines réalités, à certains obstacles, à certains problèmes. Autrement dit, c'est facile pour moi de me berner sur ma situation quant à l'argent. Facile pour moi de ne pas reconnaître que j'ai des problèmes avec un attachement au gain, soit lorsque j'en fais ma satisfaction personnelle, soit parce que j'en fais ma sécurité essentielle. En tout cas, Jésus, par cette image, vous suggère, nous invite à réfléchir et à reconnaître qu'il y a plus de problèmes qu'on ne le réalise. L'argent, il est destructeur parce qu'il nous rend aveugles. Et ça nous amène ensuite au troisième constat. Contraste entre deux maîtres. Jésus met en évidence deux types de maîtres dont nous serions l'esclave. Et l'alternative, comme c'est le cas plus haut, c'est soit d'être esclave de Dieu, soit d'être esclave de l'argent, personnifié ici par Mammon. Et là encore, je vous suggère que Jésus n'est pas le seul à affirmer qu'il y a une forme d'esclavage avec l'argent. Léon Tolstoï affirmait que l'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. Je trouve intéressant sa citation parce qu'elle nous permet de réaliser quelque chose d'important. S'il y a bel et bien, selon Jésus, deux types de maîtres personnifiés par Dieu, par Mammon, s'il y a exclusivité entre deux maîtres, on va appartenir soit à l'un, soit à l'autre. Ce n'est pas comme un employeur où on pourrait avoir un double employeur. Le fait d'avoir un maître, c'est appartenir à l'un ou à l'autre. Il y a, quand on les compare, une réalité différente dans le fait que l'un est réellement personnel, où il y a une réelle interaction, et avec l'autre, il y a plutôt une tyrannie. Même si l'argent ici, il est personnifié, comment est-ce que je pourrais espérer de la compassion un réconfort de la part de mon compte en banque. Alors vous parlez peut-être à, vous parlez peut-être, j'ai entendu quelqu'un qui parlait au bancomat, il aime bien répondre à la voix qui lui parle, mais je pense que c'est plutôt l'exception que la règle. Ce n'est pas cette interaction-là qui nous réconforte ou qui nous fait du bien quand on va mal. Quel maître, en fait, va me permettre d'être relevé? Quel maître va, en fait, me permettre d'être pardonné lorsque j'ai commis une grosse erreur? Un choix entre deux maîtres, et Jésus veut nous mettre en évidence le contraste entre l'un qui est destructeur et l'autre qui est réellement compatissant. Et ça nous amène naturellement à la dernière partie, la compassion que Dieu désire apporter. Et on va voir la priorité dans mes préoccupations, dans les versets 25 à 34. Le lien, il se fait où? Il se fait d'une part avec le simple mot « c'est pourquoi ». Il y a un lien qui nous donne une explication, un lien avec tout ce qui précède. Et je lis « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rallonger tant soit peu la durée de sa vie? » Alors, dans son discours, Jésus veut nous inviter à renoncer à certaines inquiétudes qui rongent, des inquiétudes au sujet des vêtements, de la nourriture. Mais pour détourner de ces inquiétudes, c'est intéressant de voir qu'il nous pousse à constater ou à observer la nature qui nous entoure, comment Dieu pourvoit à la nourriture pour les oiseaux, comment Dieu pourvoit à l'apparence du lys des champs dans la nature. Et où est-ce que Jésus veut en venir en faisant ça? Qu'est-ce qu'il veut faire en nous invitant à regarder la nature qui nous entoure? Est-ce que par ces paroles, Jésus sous-entend un complet détachement par rapport à la nourriture et les vêtements? Je veux dire, vous habitez à Paris, renoncez à Gucci, renoncez à tous les styles, renoncez à un bon repas dans un restaurant. Est-ce que c'est simplement un détachement par rapport à la nourriture et aux vêtements? On verrait, là encore, dans le contexte, que Jésus a dit plutôt à ses disciples une prière où un des contenus, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Il y a cette requête légitime pour de la nourriture. Ailleurs, il va clairement dire à ses disciples de partager leurs biens avec ceux qui sont dans le besoin. On se souvient, il y a deux dimanches, de l'aumône, du fait de partager les biens avec ceux qui sont dans le besoin. Et là, ce n'est pas un détachement avec les biens. C'est bel et bien des choses qui sont essentielles. Donc, ce n'est pas ça. Est-ce que ces paroles sous-entendent une certaine passivité, l'absence de réflexion, de prévoyance? En fait, il suffit d'être un peu dans l'attente. Ce n'est pas vraiment un détachement, mais c'est simplement d'être dans l'attente. Non, là encore, ça ne colle pas avec le contexte. Les oiseaux qu'on observe, ils font des nids, ils émigrent. Certains, ils stockent. Et s'il y a bien la certitude que Dieu pourvoit, il y a une action qui est tout à fait normale, légitime. Même pour les plantes, il y a une croissance qui est complexe. Ce n'est pas l'absence de toute collaboration. Il y a bel et bien un labeur, une réflexion à laquelle Jésus veut nous inviter. Ce n'est pas un déni de l'action, de la réflexion. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Une autre question qui peut nous aider peut-être à préciser de quoi, où Jésus veut en venir, c'est de se demander, mais alors, que penser de tous ceux qui vivent sans avoir de quoi manger chaque jour de manière satisfaisante? Il y a peut-être cette question, alors qu'on lisait ce texte qui vous est venu à l'esprit. Comment voir tous les gens qui n'ont pas de quoi manger malgré leur travail? Il n'y a pas des personnes, des êtres humains, même des croyants qui meurent de faim. Alors, la problématique de la pauvreté, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas encore, elle n'est pas absente là encore de l'enseignement de Jésus, qui dans son enseignement dit clairement que les croyants ont cette responsabilité à partager leurs biens avec ceux qui sont dans le besoin. Là encore, on parlait de l'aumône. Et quelques chapitres plus loin, Jésus va affirmer à ceux qui n'ont pas répondu aux besoins de ceux qui venaient à eux, qu'ils auront à rendre des comptes. Quand on regarde en fait la situation sur le plan mondial, on réalise que ce n'est pas tant la problématique du manque de nourriture, mais la répartition injuste. Et c'est plutôt une invitation pour nous à la répartir de manière plus juste. J'ai retrouvé une citation d'un certain Julien l'Apostat, un empereur romain du 4e siècle. Et vous imaginez si les croyants, le gouvernement pouvait dire des croyants quelque chose comme ça à notre époque. Alors, Julien, il était surnommé l'apostat parce qu'il s'est virulemment opposé aux chrétiens, mais il peut reconnaître que c'est une honte qu'aucun juif n'ait à mendier et que ces Galiléens, impies, chrétiens, soutiennent non seulement leurs propres pauvres, mais les nôtres aussi, tous voyant que notre peuple manque de notre soutien. Vous imaginez si les croyants dans notre génération pouvaient avoir ce même témoignage auprès des autorités. Une dernière question qu'on peut se poser par rapport à ce que là où Jésus veut en venir, c'est est-ce que ça signifie qu'à partir de maintenant, Sophie peut se mettre sur une chaise longue et se dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus aucune épreuve, plus aucun problème, et la vie sera un long fleuve tranquille. Elle l'a dit elle-même dans son témoignage, ce n'est pas fait que de haut, la vie chrétienne, et ce serait faux de comprendre les paroles de Jésus de cette façon. On peut reprendre les paroles de Jésus en relevant que l'herbe est coupée. Ailleurs, il dira que les oiseaux sont vendus, qu'ils tombent à terre, mais aucun ne tombe à terre sans que le Père ne le sache. Et là, on commence à toucher au centre de ce que Jésus veut dire, sans que le Père le sache. Il nous libère en nous délivrant de l'anxiété de l'existence. C'est là la libération. Ce n'est pas une libération de toute épreuve, une libération où on n'aurait en fait plus aucune difficulté liée à l'argent, à la nourriture, il libère plutôt de l'anxiété. Et ici encore, Dieu est décrit comme un père. Non pas Dieu ou Seigneur, mais père, parce que l'accent est mis sur la relation. Je me souviens de plusieurs périodes où, en regardant en arrière, où c'était l'anxiété qui dominait, des questions d'apparence. Ça peut faire sourire, mais combien d'heures j'ai vécu dans la crainte des remarques sur mon apparence lorsque j'avais mes premiers cheveux gris à l'adolescence. Déjà à 14 ans, j'avais ma collection. Et c'est vrai, je vivais dans l'angoisse des remarques que j'allais recevoir. Qu'est-ce que Jésus veut toucher? Eh bien, il touche à ces inquiétudes-là. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? La liberté que Jésus veut nous accorder en nous décrivant cette observation de la nature, c'est qu'il y a une libération, une réelle libération de l'anxiété. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il y a la confiance de la relation, de la souveraineté qu'il exerce. Et de quelle anxiété est-ce qu'il veut vous libérer? La crainte de ne pas être connu comme la personne pour tel ou tel poste ou tel travail. La crainte de ne pas trouver un logement sur Paris. La crainte de ne pas recevoir telle ou telle aide. La crainte de ne pas plaire. Quelle est la préoccupation qui me domine au point de me ronger, de me détruire? Votre Père Céleste sait, sa connaissance et sa souveraineté, c'est ça qui nous libère. Alors, j'ai parlé de la priorité, des préoccupations, mais pourquoi parler de priorité? Jésus, il ne veut pas simplement, en fait, nous libérer de l'anxiété, il veut aussi détourner nos préoccupations vers autre chose. Et c'est le verset 33 qu'il met en évidence. « Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » La priorité dans nos préoccupations consiste à chercher son règne et sa justice. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qu'il entend par règne et justice? Alors, peut-être qu'on peut commencer avec ce qui est le plus clair, la justice. On peut voir d'une part toute l'éthique dont Jésus a parlé, l'amour pour les ennemis, le fait de ne pas commettre d'adultère, de ne pas se mettre en colère, de ne pas insulter mon frère ou mon prochain. L'éthique de la justice qui englobe aussi le fait de donner à ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est la justice. Qu'en est-il du règne? Là, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de l'explication, mais cette expression du règne, du royaume, elle traverse tous les évangiles et même la Bible. Et on peut, en gros, le résumer par le fait qu'il s'agit d'une autorité reconnue de Jésus. À la fois sur le plan personnel, mais un désir de le voir être reconnu autour de nous. Et ça devrait être notre préoccupation. Que Jésus règne dans ma vie et autour de moi. Et on réalise là que la priorité, elle est déplacée de soi, mon argent, mes biens, mon apparence, à quelque chose de beaucoup plus grand, le règne de Dieu, la justice. Il y a quelques mois, on se trouvait en Suisse avec Anna, et en se baladant, on a vu des affiches qui étaient là pour des élections qui devaient avoir lieu bientôt. Et sur une des affiches, il y avait une devise d'une formation politique, « Ma commune, ma maison ». Ça, c'était la devise. « Ma commune, ma maison ». Quelqu'un a rajouté au feutre sur toutes les affiches, « Mon nombril ».« Ma commune, ma maison, mon nombril ». C'est vrai, n'est-ce pas? C'est très centré sur soi, c'est très étriqué comme vision. Et c'est justement ce que Jésus veut faire par son discours, n'est-ce pas? Il veut nous montrer combien l'aboutissement est étriqué, centré sur soi. Maintenant, que ce soit pour Sophie ou que ce soit pour ceux d'entre nous qui sont croyants, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir les ressources pour le vivre? Pour vivre de manière à avoir les yeux ouverts sur la réalité de mon cœur, sur ma tendance à faire de l'argent mon plus grand bien? Qu'est-ce qui va pouvoir me donner la certitude que Dieu est le meilleur trésor, le meilleur maître? Qu'est-ce qui va, en fait, m'assurer qu'il n'est pas un tyran, qu'il est bel et bien un père? Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir l'assurance que ce n'est pas un père abusif, mais qu'il est souverain et qu'il est bon dans toutes les situations que je vis? Mais il faut savoir qu'en disant ces choses, en faisant ce discours, Jésus sait très bien ce qu'il va vivre par la suite. Et alors qu'il avance petit à petit vers le moment de la croix, il dévoile à ses disciples qu'il est sur le point d'encaisser les conséquences de leur esclavage, de leur aveuglement. Il va connaître la destruction à leur place. À la croix, c'est effectivement lui qui est détruit. C'est lui qui est percé, c'est lui qui connaît l'obscurité, c'est lui qui meurt de la mort d'un esclave, c'est lui dont on a retiré les vêtements, c'est lui qui crie « J'ai soif ». C'est lui qui vit tout cela. Et si je sais cela, si je sais qu'il a effectivement vécu cette destruction à ma place et pour m'en préserver, pourquoi est-ce que je choisirais un autre trésor que lui? Si je sais cela, pourquoi est-ce que je choisirais un autre maître que lui? Si je sais cela, pourquoi est-ce que je ferais des biens ma plus grande préoccupation? Si je sais cela, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de son règne, de sa justice, ma plus grande préoccupation? Je vous invite à prier. Père, nous te prions que tu nous accordes cette lucidité pour reconnaître si l'argent est effectivement notre plus grande aspiration, notre plus grand bien à l'heure actuelle. Que tu nous rappelles et que tu nous révèles cet effet destructeur. Et nous voulons te remercier pour celui qui change nos affections, qui nous pousse à le reconnaître comme le bon maître, celui qui a été prêt à se donner, à se livrer pour nous, et qui nous délivre d'un tel esclavage. Accorde-nous dans les jours qui viennent à être changés et à vivre cette relation à l'argent ou au bien de manière toute différente, à donner radicalement et à faire preuve de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Te le prions au nom de Jésus. Amen.